enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voilà, lisons le psaume 91. Psaume 91. Ce que j'aimerais observer avec vous aujourd'hui dans ce psaume 91, ce sont sept promesses du psaume 91. Alors on va voir ensemble que dans ce psaume, il y a sept choses particulières que Dieu déclare au sujet de ceux qu'il aime. Alors, lisons à partir du premier verset. « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Un psaume intéressant, n'est-ce pas? Il y a pas mal de promesses, pas mal de paroles de bénédiction. Il parle de celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, qui repose en Dieu Tout-Puissant. Ensuite, c'est « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, car c'est lui qui te délivre. Tu verras la rétribution. » Ensuite, « Tu es mon refuge éternel. » Ensuite, « Aucun malheur ne t'arrivera. » etc. Et on voit en fait qu'il y a... C'est un petit peu comme s'il y avait un échange. En même temps, David est en train de bénir Dieu, d'élever le nom de l'Éternel. Et en même temps, il est en train de parler de la part de Dieu pour dire « Ouais, eh bien voilà, parce que je suis en Dieu, voilà ce qui ne m'arrivera pas. Voilà comment je serai. » Et ça peut être même un exemple pour nous, en tant que croyants, en tant qu'on est nouveau, lorsque nous prions, nous pouvons élever le nom de l'Éternel, nous pouvons le célébrer, nous pouvons le glorifier, mais nous pouvons aussi proclamer des choses et, j'allais dire, prophétiser sur notre propre vie. D'accord? Je ne sais pas si, par exemple, vous sentez qu'il y a des symptômes qui montent en vous. Vous pouvez dire « Merci Seigneur pour la guérison, par ses meurtrissures je suis guéri, je te bénis Éternel, merci pour ce que tu as accompli pour moi. » Et puis ensuite, vous pouvez commencer à parler en disant « Non, je ne serai pas malade, les symptômes n'auront pas accès dans ma vie, je suis en bonne santé. » Et ça, c'est une bonne chose et je vous encourage à le faire. Ce n'est pas l'objet de mon partage ce matin, mais si ça peut vous bénir. Alléluia. Et on voit qu'il y a un ensemble de bénédictions dans ce passage où vraiment on voit que Dieu s'occupe de tout l'ensemble de la vie de celui qui se confie en lui, de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, de celui qui a fait de l'Éternel son refuge et sa forteresse, son Dieu en qui il se confie. Donc si nous pouvons dire aujourd'hui, je demeure à l'abri du Très-Haut, je suis à l'ombre du Tout-Puissant, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, je me confie en lui, eh bien nous pouvons aussi être au bénéfice des bénédictions et de l'action de Dieu envers nous qui sont développées dans la suite de ce psaume. Et en fait, si on peut dire, il y a un petit peu comme un résumé, à partir du verset 14, où il dit « Puisqu'il m'aime, donc qui il ?» Eh bien, celui qui se confie en Dieu et qui l'aime, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et c'est ce qu'on va un petit peu observer ce matin, c'est ces promesses de Dieu qui sont valables pour nous, pour notre vie. Si nous nous confions en lui, voilà ce qu'il veut faire pour nous. Donc il y a ces 7 promesses. Premièrement, je le délivrerai. Deuxièmement, je te protégerai parce que tu connais mon nom. Troisièmement, tu m'invoqueras et je te répondrai. Quatrièmement, je serai avec toi dans la détresse et je te délivrerai. Cinquièmement, et je te glorifierai. Six, je te rassasirai de longs jours. Et 7, je te ferai voir mon salut. Ça, c'est des bonnes promesses, hein. Amen. Je crois vraiment que ça peut nous faire du bien ce matin, parce que Dieu est fidèle. Et vous savez, lorsque Dieu parle, c'est parce qu'il veut l'accomplir. Ce sont des bonnes choses pour nous. Et quand on lit la Bible, quand on voit tout ce que le Seigneur accomplit, on dit « Ouais, Dieu est puissant ». Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie personnelle? À quelle hauteur, à quelle puissance est-ce que j'établis Dieu dans ma vie personnelle? Parce que souvent, dans la vie des gens, on a l'impression que Dieu il est un peu faible, il est un peu petit. Parce qu'ils sont souvent en train d'exalter tout ce qui ne va pas. Ils sont en train d'exalter tout ce que le diable fait. Ils sont en train de dire « Oui, il y a tel souci, il y a tel problème. Ouais, tu sais, les démons, vraiment, ils se déchaînent sur moi. Ouais, le diable, vraiment, il secoue, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » Mais vraiment, on attend que le Seigneur revienne. Et quand j'entends ça, ami, ça paraît peut-être bien spirituel, ça paraît peut-être bien religieux, mais c'est triste. C'est triste parce que nous ne sommes pas supposés élever sans arrêt l'œuvre du diable. Nous ne sommes pas sans arrêt supposés dire combien le diable et ses démons sont puissants. Parce que la puissance qu'a le diable et ses démons dans ta vie, c'est celle que tu lui donnes. Parce que c'est à méditer et à comprendre. La puissance qu'a le diable dans ta vie et ses démons, c'est celle que tu lui donnes. Vous savez, la parole de Dieu déclare à plusieurs reprises que toutes les œuvres du diable et toute sa puissance et toutes les dominations ont déjà été réduites à néant par l'œuvre de la croix. Elles ont déjà été réduites à néant. Il a déjà perdu la bataille. Le diable et ses démons sont déjà destitués. C'est déjà fait. Vous savez, ils ont plus de pouvoir et ils le savent très bien. Mais là où ils ont du pouvoir, c'est quand nous, enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, nous ne savons pas la puissance que nous avons. C'est quand nous, Église de Jésus-Christ, nous ne savons pas que dans le nom de Jésus, nous avons déjà la victoire et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et puissions-nous enfin nous réveiller? Puissions-nous enfin nous saisir de cette puissance qu'il y a dans le nom de Jésus pour commencer à manifester ses œuvres et pour commencer à dire au diable ce qu'on a à lui dire? Pour commencer à se tenir ferme et vis-à-vis des œuvres du diable, il y a peut-être dire oui, voilà, il y a une action démoniaque, on ne va pas non plus faire comme si ça n'existait pas, parce que ça c'est le grand plaisir du diable, si on fait comme s'il n'existait pas, il fait sa petite vie, il fait ses petites affaires, nous on fait nos petits trucs et on le laisse tranquille et entre guillemets, on pense ou on espère qu'il va nous laisser tranquille aussi, alors que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Saisissons-nous de cette autorité. Vous savez, Jésus a déclaré « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et juste après, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » On connaît bien cet ordre de mission qui est à la fin des évangiles, et tellement souvent on dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les, baptisez-les. » Oui, d'accord, il faut le faire. Mais on ne pourra le faire efficacement. On ne pourra accomplir cet ordre de mission que si on comprend, si on a la révélation de ce que Jésus a dit juste avant. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Allez-y. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades et ils seront guéris. C'est excellent, mais saisissons-nous de ça. Vous savez, c'est trop facile de se cacher derrière le diable. Et on va dire, mais non, un chrétien, il sait que Jésus est vainqueur. On chante, Jésus est vainqueur. Jésus est Seigneur et tout ça. Mais trop souvent, on se cache derrière le diable. On dit, ouais, tu sais, le diable, vraiment, il fait des trucs là. Ouais, tu sais, les démons, vraiment, ils sont forts. Ils sont forts quand tu leur donnes la force. Et si tu lis la parole de Dieu, et je vous encourage à le faire, tu vas te rendre compte qu'ils sont déjà vaincus, et ils le savent très bien. Et la parole de Dieu déclare que même les démons tremblent. Ils tremblent, parce qu'ils savent déjà qu'ils sont perdus. Mais leur seul espoir, c'est quand des hommes et des femmes leur donnent du crédit. Et là, ils ont accès, et là, ils peuvent agir. Mais si vous commencez à vous positionner fermement en Christ, dans la victoire de Christ, en sachant qu'ils sont vaincus, en sachant qu'au nom de Jésus, vous avez pleinement toute la victoire, je peux vous dire que les démons vont commencer à avoir un autre regard sur vous et qu'ils ne vont pas tenir longtemps en votre présence. Voilà, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de partager, mais je crois que ça va vous bénir. Amen. Alors, revenons-en au psaume 91 et à ses promesses. Donc, il dit là, « Je le délivrerai. Je le délivrerai. » Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui délivre. c'est un Dieu qui est tout-puissant. Amen. Et il délivre. Dieu avait fait des promesses à son peuple. On voit qu'après, le peuple a été sous l'oppression de l'ennemi pendant de nombreuses années. Le peuple d'Israël est resté en esclavage en Égypte. Ils ont été oppressés, ils ont été dans des difficultés. Mais la promesse de Dieu était valable. Dieu avait promis qu'il les délivrerait de l'oppression. Et c'est ce qu'il a fait. Et il l'a fait en se manifestant. Il l'a fait avec puissance. Et il a délivré son peuple de l'Égypte. Ensuite, il l'a amené, passé par le désert. Alors, ils ont passé un peu plus de temps que prévu dans le désert. Ils sont restés plus de 40 ans. Je pense qu'au départ, le Seigneur n'avait pas projeté aussi longtemps. Mais à cause de la rébellion du peuple, à cause du manque d'obéissance et de soumission, eh bien, Dieu a finalement décidé que la première génération ne verrait pas la terre promise. Donc, tous ceux qui sont partis au début, eh bien, ils sont décédés au désert. Mais c'est ensuite les enfants, sous la conduite de Josué, qui eux vont être amenés à voir la terre promise, à entrer dans la promesse de Dieu. Toujours est-il que la promesse était vraie et que Dieu l'a accomplie pour eux. Et notre Dieu est un Dieu de délivrance. D'accord ? Et plus tard dans le Nouveau Testament, bien sûr, on voit plusieurs fois des exemples où Dieu délivre, où Jésus lui-même a donné l'exemple. Et quand Jésus énonce son ordre de mission dans l'évangile de Luc au chapitre 4, et au-delà de ce que Jésus a fait, c'est aussi ce qu'il nous envoie accomplir. Luc 4, 18, Jésus vient dans la synagogue et il va lire l'écriture. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Donc voilà pourquoi Jésus est venu et pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu était sur lui, pourquoi est-ce qu'il a eu l'onction, proclamer aux captifs la délivrance, verset 19, et renvoyer libres les opprimés. Et ça, c'est le ministère de Jésus, et tout au long de son ministère, dans les évangiles, on voit que plusieurs fois, Jésus est face à des personnes, à des situations, et il va les délivrer, il va les sortir, alors il va guérir beaucoup de malades, il va aussi délivrer des démoniaques, il va chasser des démons, et acte 10, 38, il nous est dit ensuite du ministère de Jésus, donc comme un témoignage, que Dieu l'a oint de Saint-Esprit et de force, Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable, c'est-à-dire qu'il a porté la délivrance, qu'il a porté la liberté. C'est ce que Dieu fait, il délivre. Et aujourd'hui encore, Dieu a cette puissance, cette capacité de délivrer et de libérer les gens de l'emprise du malin. Comme j'ai dit tout à l'heure, si l'ennemi a une puissance, c'est qu'on lui a donné. Mais alors, si on lit la parole de Dieu, si on met de la foi dans l'œuvre de Christ, on voit qu'ils sont déjà vaincus et qu'on a la victoire. Parce que Dieu est celui qui délivre. Et ici, j'aimerais rajouter une précision, c'est Dieu qui délivre. Et nous pouvons amener la délivrance aux gens, au nom de Jésus, mais c'est Dieu qui l'accomplit. C'est la puissance de Dieu qui délivre. C'est la puissance de Dieu qui libère. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui libère. Alléluia. C'est pas l'homme, c'est pas un pasteur, c'est même pas moi. Et quand je vois des personnes à délivrer ou libérer, c'est pas moi qui le fais, c'est Jésus. Moi, ce que je fais, prêche la parole. J'amène les gens à la foi, je rends témoignage et ensuite j'obéis, j'applique la parole de Dieu. Je viens au nom de Jésus, je fais ce que j'ai été envoyé faire, la personne est guérie et délivrée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pas à moi, pas à l'homme. Vous savez, parfois, on a tendance un peu à élever les gens sur un piédestal et certains aiment ça et malheureusement certains aussi se font payer à prix d'argent pour dire oui je vais vous faire une prière de délivrance et malheureusement en plus ces pseudo-ministères ont du succès, les gens aiment ça. Il y a des gens qui viennent comme ça dans des endroits qui se disent serviteurs de Dieu et on vient, on dit oui j'ai besoin d'une prière parce que j'ai ça qui ne va pas dans ma vie et pour obtenir la prière contre les oppressions de l'ennemi, contre la maladie ou toutes ces choses-là, qu'est-ce que les gens font? Eh bien, il va falloir d'abord qu'ils apportent un billet. Il va falloir d'abord qu'ils donnent un sacrifice. Qu'on a essayé de mixer un petit peu l'ancienne et la nouvelle alliance, et c'est quelque chose qui ne marche pas. Parce que Jésus donne gratuitement, Jésus libère gratuitement. Alors, bien sûr, quand on dit que c'est gratuit, c'est que quelqu'un a déjà payé. Mais celui qui a payé, c'est Jésus-Christ. Et il a payé il y a 2000 ans à la croix du calvaire. Il a payé de sa vie. Et la seule chose qui est requise aujourd'hui pour être délivré et sauvé, c'est la foi. C'est la foi. On ne peut pas vous imposer autre chose. Et je sais que c'est malheureusement un domaine où il y a beaucoup d'abus. On a même des fois vu des reportages sur des gens qui infligeaient toutes sortes de pénitences, toutes sortes de punitions, toutes sortes d'obligations aux gens, soi-disant pour les délivrer. mais ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ne nous laissons pas tromper, ne suivez pas seulement des choses qui vous paraissent bien religieuses. Vous savez, parfois on nous enseigne quelque chose et parce que ça nous paraît bien religieux, parce que ça vient titiller notre âme, on se dit « ouais, ça va me permettre de faire quelque chose pour obtenir ça », ne rentrez pas dans ces choses-là, ça ce sont des principes de manipulation. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Ça y est, la devise du ministère, et je ne la répéterai jamais assez, c'est fondé sur la parole et conduit par l'Esprit de Dieu. Si vous avez de solides fondements sur la parole, vous êtes difficile à dérouter, parce que la parole ne dit pas deux choses différentes, la parole est unique. Et conduit par l'Esprit, parce que le Saint-Esprit marche toujours en accord avec la parole de Dieu. Donc quand vous entendez des choses, avant de vous lancer, avant de trouver que c'est bien ou que c'est pas bien, cherchez dans la parole, demandez au Seigneur, dites « Seigneur, conduis-moi ». Tu m'as donné le Saint-Esprit pour me conduire dans la vérité, alors montre-moi. Et vous allez voir. Et si vous ne trouvez pas confirmation dans la parole de Dieu, laissez tomber. Laissez ça à côté. Amen. C'est vraiment important, vous savez, surtout dans ce domaine-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de mon enseignement particulièrement, mais je ressens vraiment que c'est nécessaire de préciser ça. Mais ne vous laissez pas embarquer, embrigader dans ces histoires-là. Lisez la parole de Dieu. Regardez comment Jésus traitait ça. Regardez comment, dans les Actes des Apôtres, l'Église traitait ça. Regardez les enseignements à ce sujet et surtout laissez-vous convaincre par l'Esprit de Dieu en ayant fondé sur la parole et rien d'autre. Et rien d'autre. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu a promis de faire dans Psaume 91 ? Je le délivrerai. Et c'est confirmé dans la Nouvelle Alliance parce que Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, il est venu délivrer, libérer. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure et on peut aller le lire dans l'Évangile de Marc, par exemple. Au chapitre 16, et à partir du verset 15, il leur dit, donc Jésus, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, put enlever au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Là, on voit que Jésus lui-même, il est venu avec une onction pour la délivrance, pour libérer les gens de l'emprise du diable et des démons. Avant de monter auprès du Père, il va donner cet ordre à ses disciples, « Allez-y ! » Et en mon nom, voilà ce qui va se passer, ce qui va vous accompagner. Et ça ne se limite pas aux disciples. Il dit ceux qui auront cru. Donc si vous croyez aujourd'hui, si vous êtes dans la foi et que vous saisissez la puissance qui est dans le nom de Jésus, vous pouvez voir ces signes vous accompagner et vous allez les voir. Et le verset 20 ne se contente pas seulement de dire point final, voilà. On connaît la suite de l'histoire. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est-à-dire que les miracles accompagnent la parole. Amen. Donc la délivrance, c'est une promesse du psaume 91. Dieu l'a démontré à travers son peuple. Alors, je te le ferai sortir de l'esclavage d'Égypte, qui est une image aussi pour le salut. Dans l'esclavage du monde, où on est sous l'emprise de différentes choses, et puis Jésus-Christ vient nous libérer. Ensuite, on vient dans ce qu'on appelle la terre promise, le pays de la promesse de Dieu. C'est une image pour la délivrance, c'est une image que l'Ancien Testament nous apporte des images, nous apporte des enseignements, nous apporte des exemples. Et Jésus est venu avec une onction pour délivrer, pour libérer. Et ensuite, il a délégué à ses disciples et au-delà à tous ceux qui auront cru la puissance pour délivrer. Amen. Donc cette première promesse, elle est établie, c'est une promesse de Dieu pour vous aujourd'hui. Deuxième chose, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Et dans l'Ancien Testament, on a l'exemple où Dieu avait demandé à son peuple de mettre du sang sur les linteaux des portes pour protéger ceux qui lui appartiennent de l'ange de la mort qui allait passer le soir dans la ville. De la même façon, aujourd'hui, nous a donné le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous protège et une protection pour nous. Donc, il nous donne la protection. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Dans le nom de Jésus, vous avez autorité sur ce qui peut vous attaquer et vous êtes totalement protégé. Vous pouvez vous placer sous le sang de Jésus, qui a une puissance qui va vous garder et qui vous garantit la protection divine. C'est quand on sait quel est le nom de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé dans le nom de Jésus, qu'on sait qu'on est protégé. On n'a rien à craindre, on n'a pas besoin d'avoir peur. D'accord ? La parole de Dieu est pleine de promesses. Jésus déclare Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, même dans le psaume 91, c'est souligné un peu plus haut dans ces versets. Et j'aime bien cette déclaration. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint, même si tout le monde autour de toi doit être atteint, tu ne seras pas atteint. Et j'aimerais te dire que quoi que ce soit qui se passe autour de toi et dans ce monde, même si pour beaucoup de gens ça a pu devenir la norme, parce que vous dites, ouais, mais tout le monde est touché par ça, tu ne seras pas atteint. Si c'est la saison où les gens sont enrhumés, où les gens sont malades, où il y a des virus, tu ne seras pas atteint. Si c'est la saison où il y a beaucoup de moustiques, et selon la région du monde où on se trouve, hein, où en Afrique notamment on peut avoir le palu, ou ici on peut avoir la dengue, et causer que voilà, tout le monde va attraper la fièvre, il y a beaucoup de gens qui sont atteints, beaucoup de gens qui l'ont comme une fatalité, on va dire, ah mais moi aussi, non, tu ne seras pas atteint. Quand on tombe dans une période de troubles et de crise économique où tout vient à manquer, où les gens perdent leur travail, où c'est difficile, tu ne seras pas atteint. Amen. Tu ne seras pas atteint. Saisissons-nous de ces paroles de Dieu, saisissons-nous de ces promesses. Si elles viennent dans votre cœur comme une révélation de la part de Dieu, vraiment, saisissez-le, proclamez-le. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Même si tout est contraire, tu sais que Dieu est ta protection. Et tu ne seras pas atteint. Troisième promesse dans ce verset. Donc je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Est-ce que vous savez que lorsque vous parlez à Dieu, il vous écoute? Et lorsque vous lui demandez quelque chose, il vous répond. C'est ce que Dieu veut faire. C'est déclaré dans ce psaume. Et plusieurs passages de l'Écriture vont venir corroborer, soutenir cette déclaration. Jérémie 33. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. C'est un seul passage. Il y en a plusieurs dans la parole de Dieu, souvent c'est cette promesse. Demande-moi, je te répondrai. Appelle-moi, j'interviendrai. Sous l'ancienne alliance déjà, et maintenant dans le Nouveau Testament, on a plusieurs paroles. Matthieu 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Marc 11, 24. Je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et Jean 16, 23. Je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Crois dans ces deux passages de Marc 11. Tout ce que tu demandes, si tu crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Amen. Là, Dieu fait appel à la foi, mais il te dit, demande-moi. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est la promesse de Dieu. Quand tu pries, il t'entend. Vous savez, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il l'écoute et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et lorsque nous venons à Dieu, il nous écoute, il nous entend et il répond. Si nous mettons la foi dans le fait qu'il l'a accompli, nous le recevons. Tout ce que vous demandez, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et ça appelle à quelque chose de notre part aussi, croire qu'on l'a reçu, avant même de le voir. D'accord ? Au moment où nous demandons, nous devons nous positionner dans la foi. Et au moment même où je demande, je crois déjà que je l'ai reçu. Si nous demandons, il répondra. Ayez vraiment foi dans le fait que Dieu répond. C'est sa parole, c'est sa promesse. Et il nous donne de bonnes choses. Et il fait cette comparaison dans les évangiles en disant que si vous, hommes, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent? Et il dit ça aussi au sujet du Saint-Esprit. Mais c'est valable dans tous les domaines. Dieu veut donner des bonnes choses à qui? À ceux qui demandent. Et à ceux qui demandent comment? Avec foi et en croyant qu'ils ont reçu. Et on le voit tout au long du ministère de Jésus, quand les gens appellent au secours Jésus. Hein, parfois Jésus passe là et des boiteux ou des aveugles ou des gens qu'on méprise vont crier au Fils de Dieu. Jésus parfois dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Les gens vont répondre et Jésus va leur donner ce qu'ils ont demandé. Et dans le livre des Actes, on voit aussi des exemples. C'est un moment quand Pierre et Jean se rendaient au temple et il y avait ici un boiteux assis devant une porte qui est en train de mendier. C'est dans Actes 3 et la Bible nous dit que Pierre et Jean ont été interpellés et ils ont dit à cet homme, regarde-nous. Et Pierre et Jean vont lui faire cette déclaration qu'on connaît bien, parfois on la chante. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le boiteux a été guéri, il s'est levé et il est parti en marchant, en sautant et en louant Dieu. Et beaucoup de monde ont été touchés parce qu'ils ont reconnu. Mais celui-là, il était assis à la porte du temple. Il mendiait maintenant, il marche, il saute et il loue Dieu. C'est un témoignage. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu répond. Dieu répond. Il m'invoquera et je lui répondrai. On voit aussi dans le livre des Actes avec Paul et Silas, un jour ils sont dans une prison et ils sont attachés, ils ne peuvent rien faire. Mais la Bible nous dit que Paul et Silas étaient en train de prier, de chanter les louanges de Dieu dans cette prison. Et même que les autres les entendaient. Et ils étaient là en prison et sont en train de donner gloire à Dieu. C'est quand même formidable, hein. Comment est-ce qu'on peut louer Dieu et donner gloire à Dieu pendant qu'on est attaché dans une prison au milieu de la nuit quand on est dans la foi? Je pense personnellement que Paul et Silas ont prié, parce que la Bible dit qu'ils étaient en train de prier, mais ensuite ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu parce qu'ils étaient déjà, ils ont déjà cru qu'ils avaient reçu ce qu'ils ont demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis de la prison, ils ont été délivrés. Dieu répond à la prière. Si vous priez, si vous êtes dans la foi, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. L'apôtre Paul aussi, il a donné une exhortation aux Philippiens, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc il dit ne pas s'inquiéter, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et avec des actions de grâce. Donc c'est quoi? Comment? Une action de grâce, c'est en fait, c'est merci. D'accord? C'est un merci même beaucoup plus dynamique. Hein. On dit, il y a de l'action, on remercie Dieu, on est reconnaissant. Comment est-ce qu'on peut demander avec reconnaissance? Eh bien, quand on croit qu'on reçoit ce qu'on demande. D'accord? Et des fois, si vous demandez quelque chose à quelqu'un, et il peut vous dire, c'est comme si c'était fait, vous lui dites déjà merci par avance, alors que vous n'avez pas encore obtenu ce que vous lui avez demandé, mais parce que vous savez qu'il va vous le donner, vous avez foi en sa parole, en ses promesses. Et pareil avec Dieu, quand vous demandez, si vous croyez que vous avez reçu, vous pouvez demander avec des actions de grâce, avec la reconnaissance. Et vous allez voir les choses s'accomplir. Vraiment, si vous vous accordez à la parole de Dieu, à sa volonté, sachez que si vous l'invoquez, si vous appelez son nom, il va vous répondre et il va glorifier son nom dans votre vie. Amen. Alors, quatrième promesse, je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai. Vous savez, même quand nous sommes chrétiens nés de nouveau, sous la nouvelle alliance, qu'on a reçu Jésus, que le Saint-Esprit vit en nous, peut-être même on est baptisé du Saint-Esprit, mais nulle part la parole de Dieu ne dit qu'on n'aura plus jamais de situation difficile. Nulle part la parole ne dit qu'on ne traversera pas des moments de détresse. Parce que nous sommes dans ce monde. Et malheureusement, dans ce monde, eh bien, il y a des moments difficiles, il y a des moments de détresse, il y a des choses qui nous arrivent. Mais ce que Dieu a promis, c'est qu'il sera toujours avec nous, même dans la détresse, même quand c'est difficile. Et je l'en délivrerai. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. » Mais il est dit aussi que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc ça montre que le diable, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut voler, égorger et détruire. Il y a vraiment un contraste, c'est-à-dire qu'il y a deux puissances qui se confrontent dans ce monde. Il y a la puissance de l'ennemi qui veut tout faire pour nous mettre les bâtons dans les roues, pour nous éloigner du Seigneur, pour nous empêcher de venir à lui et pour nous causer des ennuis. Mais il y a aussi la puissance de Dieu qui nous délivre, qui nous rend fort et qui nous permet de surmonter toute situation. Et c'est à nous d'être vigilants, mais c'est à nous de savoir que même quand c'est difficile, de nous appuyer sur lui et il va nous délivrer. 1 Pierre 5, 8 dit aussi qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra détruire. Et il cherche, il regarde, mais on ne va pas lui donner l'occasion de nous détruire. Vous savez, quelqu'un a dit cette expression que vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire un nid. Et de la même façon, on ne peut pas empêcher le diable de tourner autour. On ne peut pas empêcher le diable d'être dans ce monde, parce que pour un temps, il y est. Et bon, la parole de Dieu déclare que quand son heure sera venue, il sera jugé, il sera jeté dans les temps de feu avec tous ses démons. Mais pour l'instant, il est dans ce monde. On ne peut pas l'empêcher d'essayer de faire des choses autour. Par contre, on peut l'empêcher de nous atteindre. Et c'est même notre devoir et notre autorité. D'accord ? Donc même s'il rôde comme un lion, il regarde, hein, il observe, il cherche, nous n'avons pas lui donné l'occasion de venir. Et ne pas lui donner l'occasion de venir, entre autres, c'est ne pas lui donner des prises dans notre vie. Parce que vous savez, certains de nos comportements ou certaines de nos actions peuvent donner comme des prises à l'ennemi dans notre vie et ça donne comme le droit d'intervenir. Et bon, on ne va pas développer ça ici, mais si nous marchons selon la parole de Dieu, dans l'obéissance, si nous sommes droit envers Dieu, si nous marchons avec lui, le diable peut tourner autour de nous, mais il n'a pas à nous atteindre. Vous avez le droit et l'autorité de refuser qu'il vous atteigne. Et le Seigneur a dit qu'il serait avec nous. Et le psaume 34, verset 20, dit aussi « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas de savoir si on a souvent des problèmes, c'est surtout de savoir que Dieu nous délivre toujours. Ce n'est pas une fois il délivre, une fois il te laisse te débrouiller, c'est il te délivre toujours, toujours. Et le Seigneur a vraiment des réponses dans toutes les situations. Et dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, il va nous donner des solutions à certains de ces problèmes. Il va dire, voilà, et Jacques 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église ?» Donc on voit que même s'il y a des choses qui vous arrivent, le Seigneur il a une réponse. Il dit tiens, voilà comment tu vas faire, voilà comment tu vas t'en sortir. Et pourquoi le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité? Nous avons besoin de réagir de la bonne façon vis-à-vis des situations, en accord avec la parole de Dieu, et conduit par le Saint-Esprit pour pouvoir nous en sortir. C'est ce que Dieu veut faire. Il est avec nous et il nous délivre toujours. Cinquième promesse. « Je le glorifierai » ou « Je l'honorerai, je lui donnerai de la gloire. » Alors, ça peut paraître étrange, hein, mais Dieu veut nous glorifier. Il veut nous glorifier, il veut nous donner de l'honneur. Dieu veut nous donner de l'honneur, Dieu veut nous honorer. Si vous marchez avec Dieu, si vous confiez en lui, si vous marchez d'une manière digne, si vous lui obéissez, si vous le suivez, il va vous honorer. Il va vous honorer. Et même si le monde peut-être a du mépris ou n'honore pas trop les gens qui croit la parole de Dieu, qui le serve, Dieu lui va vous honorer. Il va vous honorer. C'est ce que Dieu désire. Dieu désire vous honorer. Il y a un autre passage de l'Écriture qui dit même que Dieu chantera des louanges. Dieu vous chantera des louanges à vous. Nous, on a l'habitude de louer Dieu. Il y a un moment aussi où Dieu va nous louer. Et il y a un moment aussi où Dieu va nous donner des récompenses parce qu'on aura marché avec lui, parce qu'on aura fait les œuvres auxquelles il nous aura appelés. Il va nous donner des récompenses, il va nous dire c'est bien. Et on a cet exemple aussi dans la parabole où il dit bon et fidèle serviteur. Oh, Dieu nous honore, Dieu nous encourage, Dieu chante entre guillemets nos louanges. Et ensuite nous aurons cet honneur, comme je le dis quelquefois, à notre tour de venir avec ses couronnes, avec ses récompenses. Et comme ces 24 vieillards de venir jeter nos couronnes, jeter nos récompenses aux pieds du Maître et dire à toi seul la gloire et l'honneur pour l'éternité. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es le Tout-Puissant. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la majesté, parce que c'est lui qui en est digne. Alléluia. Promesse suivante, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Vous savez, on n'est pas obligé de mourir jeune. Il y a des régions du monde où les gens meurent très jeunes, mais la parole de Dieu ici dit, non, celui qui se confie en moi, je le rassasirai de longs jours. Et là, il n'est pas seulement question de la vie éternelle. Et question de la vie terrestre, rassasiée de longs jours. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mourir jeune ou mourir prématurément, ou mourir dans un accident comme ça, accidentellement, pour dire, mais on peut mourir satisfait, en ayant vécu pleinement notre vie. Et ça, ça va glorifier le nom de Dieu. Dieu veut une vie pleinement épanouie pour nous. Dieu veut nous amener au bout. Dieu veut qu'on ait une vie d'accomplissement, où on puisse être satisfait. Je le rassasierai de longs jours. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre vieux, mais il y a question d'être rassasié. Et il y a peut-être des gens qui vont être rassasiés avec moi et des gens qui ont besoin de plus pour être rassasiés. Mais vraiment, mon désir, c'est de vivre pleinement ma vie. Et quelquefois, je dis, vous savez, moi, je n'ai pas prévu de mourir. et les gens peuvent trouver ça bizarre. Je ne voudrais pas que vous ayez une interprétation extrême de ce que je suis en train de dire, mais je n'ai pas prévu de mourir. Pourquoi ? Parce que je veux vivre pleinement avec Dieu. Je veux vivre pleinement tout ce que Dieu a préparé pour moi. Je veux pleinement impacter le monde dans lequel je suis avec la puissance de Dieu, avec la révélation de qui il est, avec sa puissance. Je veux voir la gloire de Dieu manifestée. Je ne pense pas à la mort tous les jours en me disant « mince, si je meurs demain, j'ai pas eu le temps de faire ça. » Ou « mince, si je mourrais demain, qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui, donc je vais vivre de cette façon-là » Non. Vous savez, parfois, on voit des petits messages comme ça qui circulent sur Internet. Et c'est pas mauvais en soi, mais des fois, les gens disent « oui, qu'est-ce que tu ferais si tu mourrais demain ?» Donc, comporte-toi comme ça, vis chaque jour comme si c'était le dernier. Ça sonne bien et on peut même se dire « ouais, c'est une bonne philosophie de la vie. » Mais en fait, il y a mieux que ça. Moi, j'aime vivre pas en pensant que je pourrais mourir demain. Et en essayant de faire de mon mieux, j'aime vivre en me disant que je veux que ma vie soit le plus bénéfique possible. Je veux que ma vie soit en honneur à Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu à l'œuvre, en ayant accompli ses œuvres. Et ça, ça va m'amener à vivre, à élever le niveau, à élever ma qualité de vie pour honorer Dieu, pour être un témoignage. Je n'ai pas besoin de me dire que je vais mourir demain pour vivre correctement. Je n'ai pas besoin de me dire que je vais mourir demain pour aimer les gens. D'accord ? Saisissez les promesses de la parole de Dieu. Non, je vais être rassasié de longs jours. Et il y a des gens parfois qui traînent là, qui se disent « bon, si seulement Dieu pouvait me chercher, seulement le Seigneur pouvait m'enlever, pouvait me rappeler à lui. » Mais vivez sur la terre, soyez une bénédiction, soyez un témoignage pour Dieu. Peut-être que quand vous serez mort, on peut dire « mais il a été rassasié de longs jours, il a bien vécu, il a été une bénédiction, il a été un témoignage jusqu'à la fin. » Il n'était pas là à vivoter en se disant « oh, quel soulagement, Dieu l'a enlevé. » J'aimerais que jusqu'à la fin de mes jours, ma vie soit utile à Dieu. J'aimerais que le Seigneur puisse m'utiliser. Vous savez, on n'est pas obligé de mourir malade, affaibli et vieux, non. On peut simplement mourir rassasié. On sait que notre jour est venu, que tout est OK. Et puis, bye bye, on y va. Amen. En tout cas, tu serais rassasié du jour. Tu n'es pas supposé mourir jeune. Vous savez, si peut-être il y a une situation dans votre vie, si peut-être vous vous trouvez dans des difficultés, recevez cette parole de Dieu et commencez à proclamer « Non, je serai rassasié de longs jours. Je ne vais pas mourir comme ça. Je veux vivre pleinement ma vie. » Et vous savez, la parole de Dieu donne certains exemples pour vivre longtemps. Il y a ce commandement, Éphésiens 6, qui est assorti d'une promesse où il dit « Enfant, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. Tu obéis à ce que Dieu attend de toi. » Et dans 1 Pierre 3,10, il y a aussi cet enseignement. Si quelqu'un aime la vie et veut voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et là encore, exhortation, attention à ce qui sort de vos bouches. Si tu préserves ta bouche du mal et ta lèvre des paroles trompeuses, tu verras de longs jours et des jours heureux. Amen. C'est une promesse, hein, c'est la parole de Dieu. Donc je crois que c'est pas seulement quelque chose qui peut hasardeux, non. Je lui ferai voir de longs jours. C'est une promesse de Dieu. C'est valable pour nous. Et enfin, la 7e promesse. Je lui ferai voir mon salut. Donc, le salut, il est pour tout le monde. Il nous appartient. Tous ceux qui se tournent vers Dieu et se confient en lui peuvent et verront son salut. Vous savez, le salut, c'est pour tout le monde. Hein. Parfois, c'est comme si on ne savait pas trop qui peut être sauvé. Nanana. Tout le monde peut être sauvé. Et j'aimerais même dire que potentiellement, tout le monde est déjà sauvé. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, il a dit « tout est accompli ». C'est-à-dire que tout est OK, tout est fait. C'est-à-dire que potentiellement, c'est OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que nous nous approchions de lui. Il faut que nous nous alignions sur sa parole, que nous venions au Seigneur, que nous naissions de nouveau, et que par la foi, nous recevons tout ce qu'il a accompli. C'est déjà le cas pour le salut. Après, ça va être le cas pour tous les domaines de notre vie, pour recevoir les promesses de Dieu. Le salut est pour nous. Il est à notre disposition. Et il s'obtient par la foi. Alors, voilà ces 7 promesses, quelques lumières dans le Nouveau Testament qui viennent appuyer ces promesses de Dieu qui sont valables pour nous aujourd'hui. Mais je vous encourage vraiment à les reprendre et à chercher dans la parole. À chercher les promesses qui disent que je le délivrerai. À chercher les paroles et les promesses de Dieu sur la protection, à chercher les promesses de Dieu sur la réponse à la prière, à nos invocations, sur sa présence à nos côtés dans la détresse, sur la délivrance et la gloire ou la louange qu'il veut nous apporter, et sur une vie rassasiée de longs jours, et sur le salut. Et vous allez voir qu'il y a des paroles de Dieu. Dieu s'engage. qu'il désire pour nous. Et si nous lisons vraiment la parole de Dieu, et lisez le Nouveau Testament, lisez les Actes des Apôtres, lisez les Épîtres, et vous allez voir les bénédictions qui se trouvent en lui, en Jésus. Et même si ces paroles que nous avons lues ce matin dans le psaume 91, bien sûr, datent d'avant que Jésus ne soit venu, mais elles sont toujours valables, et elles sont d'autant plus vraies qu'avec l'œuvre de Jésus, nous pouvons pleinement saisir tout cela par la foi. Et Éphésiens 1 déclare un certain nombre de choses que nous avons en lui, donc en Christ, et il est dit entre autres que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vous avez été bénis, vous êtes au bénéfice des bienfaits de Dieu, parce que le sacrifice de Jésus nous a ouvert une alliance plus excellente, une alliance meilleure. Et je vous encourage vraiment à recevoir les promesses de Dieu, à vous en saisir, à les proclamer dans votre vie, et vous allez voir sa gloire manifestée. Amen. Alors ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare sur ma propre vie et sur chacun de vous, parce que j'aime Dieu, il me délivre, il me protège, parce que je connais son nom. Je l'invoque et il me répond. Il est avec moi dans la détresse. Il me délivre et il me glorifie. Il me rassasie de longs jours et il me fait voir son salut. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.